Pour ceux qui ont Internet chez eux, qui ont le temps, cette semaine, on a une nouveauté sur le site Internet. Les prédications ont commencé à être ajoutées au site. Donc, la prédication de la semaine passée de notre frère Robert est présentement sur Internet. Donc, hein, t'es le premier, Robert. Hein, ouais. Donc, on va... présentement, il y a juste elle. J'aimerais ça, dans les prochaines semaines, ajouter des séries qu'on a fait dans le passé. Mais pour ça, faut que je prenne le temps de faire le ménage, de retrouver les titres, de retrouver les dates, et ainsi de suite. Mais il y a plusieurs séries qu'on a fait, je pense qu'il serait vraiment utile d'avoir sur le site Internet, parce que à travers tous ces enseignements-là, le Seigneur a vraiment transformé nos cœurs, touché nos vies, et nous a ramenés vraiment à l'essentiel. C'est facile de se perdre dans beaucoup de choses, surtout dans notre époque où il y a beaucoup d'informations, beaucoup. Et puis, on est dans une culture où c'est difficile d'aller profondément dans nos cœurs. Et puis, on se laisse souvent distraire par beaucoup de choses qui sont pas essentielles. Je veux pas dire pas importantes, mais pas essentielles. Et puis, quand on parle de l'Évangile, de l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est important d'aller à l'essentiel. Parce que tout le reste sans l'essentiel est complètement inutile. Et c'est un peu ce qu'on va se rappeler encore une fois ce matin. On va prendre le temps de prendre le repas du Seigneur ce matin. Et j'aimerais beaucoup votre participation à plusieurs égards. Prenez le temps de réfléchir tout au long du message, ce que j'ai pour vous ce matin, de comment est-ce que ça s'applique dans ma vie, où est-ce que moi j'en suis, pour ensuite prendre le temps de le partager aux autres. On est une famille, on veut cheminer ensemble, on veut s'accompagner ensemble. Ça passe par la participation, également par la vulnérabilité. On a pris le temps dans les dernières années, on en a reparlé il y a quelques semaines aussi, l'importance de la vulnérabilité dans chacune de nos vies. Y en a-tu qui se souviennent? C'est à la réunion de membres, je pense qu'on en a parlé. Hein? On a rappelé ça à la réunion de membres. Mais c'est un élément tellement essentiel. Sans vulnérabilité, il n'y a pas d'amour possible. Et sans amour, ben on passe complètement à côté de la traque. De l'essentiel, on peut pas vivre une vie qui honore Christ sans l'amour. Donc, c'est réellement important. Fait que j'aimerais que tout au long du temps qu'on a ce matin ensemble, que vous preniez le temps de penser, de réfléchir à cette situation-là dans votre vie. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Et quand on va prendre le repas du Seigneur, j'aimerais vous inviter à le partager pour l'édification commune. Ça peut être une bénédiction, ça peut être aussi un moment difficile, quelque chose avec lequel vous luttez, une réalité, une vérité que le Seigneur vous montre et que vous voulez partager pour qu'on vous soutienne, qu'on prie pour vous. On va prendre le temps de le faire aussi. C'est toutes des choses qui sont vraiment importantes. Ce matin, on va regarder la vérité avec amour. Et pour ça, j'aimerais qu'on tourne dans Éphésiens chapitre 4 ce matin. Un livre tellement intéressant qu'est Éphésiens. On avait pris le temps, il y a quelques années, de faire le tour de Éphésiens à travers la lentille de notre identité. Hein? Qui nous sommes en Christ? Qui je suis? Et Éphésiens s'adresse à l'Église. Paul donne réellement les fondements de la vie chrétienne, les fondements de l'Église, les fondements de la communauté chrétienne, de quelle façon on a à vivre ensemble. Il prend la moitié du livre, les trois premiers chapitres, vraiment pour instruire l'Église sur son identité, sur qui elle est maintenant. Il prend le temps de prier, il fait deux prières dans cette section-là du livre sur « Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent. » Après ça, c'est « Seigneur, qu'ils comprennent la profondeur, la hauteur, la largeur, toute la dimension de ton amour. » Deux choses tellement importantes. Et là, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, Paul nous parle de l'Église. Et ça va comme suit. « Ce n'est pas en vue de mes besoins. » Je suis en Philippiens. Il me semblait aussi. Quoi qu'il marche pas. Moi, je suis dans, il faut que j'aille dans Éphésiens. je regardais mon verset 11, puis j'étais comme... Éphésiens 4, verset 11, qui va comme suit. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, dans ce passage-là, Pierre, Paul, il met ça vraiment clair, que les hommes de Dieu qui a donné à l'Église, les pasteurs, les docteurs, et toutes ces choses-là sont là en vue d'une chose. Le perfectionnement des saints en vue de quoi? De l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est qui ici dans le passage qui fait le ministère? C'est les saints. C'est qui les saints? C'est tout le monde. C'est nous. OK? Fait que première des choses, dans l'ordre des choses que Paul établit, ben ceux que Dieu a donné à l'Église sont là pour l'édification du corps de Christ, pour les équiper en vue que le ministère soit fait. Fait qu'on voit tout de suite que le modèle d'aujourd'hui, où est-ce qu'on rémunère des ouvriers pour qu'eux fassent le ministère, tient pas la route ici. Dans le but, je te paye, donc fais le ministère, moi je m'en dégage. Je peux aller vaquer à mes occupations et puis garder, continuer ma vie en étant conscient puis avoir la conscience tranquille du fait que je participe à la mission parce que je participe à la rémunération de celui qui fait le ministère. De toute façon, lui, il a du temps pour le faire, il est payé pour ça. Et ça, c'est une société vraiment de consommation qui a emmené ce modèle-là. C'est une façon de se déculpabiliser de notre responsabilité, qui est de donner notre vie entièrement au Seigneur et de tout placer sous l'appel de Dieu pour nous. Chaque élément de notre vie. Et Paul ici remet la base. Les ouvriers comme ça, ceux qui sont donnés à l'Église, sont là pour le perfectionnement des saints en vue du ministère. Donc, il nous rappelle cette vérité-là qui est importante. C'est pas la première fois qu'on en parle ici, mais c'est une vérité qui est bien présente dans le passage. Verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » En vue de la maturité, en vue de connaître Christ, d'incarner Christ, d'être comme Christ de plus en plus, jour après jour. Verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Pour arrêter d'être ébranlés d'un côté puis de l'autre, dans chacune de nos vies. Pour s'attacher à la vérité, s'attacher à ce qui est essentiel et se détourner de tout ce qui ne l'est pas. Verset 15, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Le verset 15 est vraiment intéressant. Il fait d'un élément essentiel et central se professer la vérité dans l'amour pour que l'on grandisse. Le but, c'est qu'on arrive à la stature parfaite de Christ, tous et chacun. Et Dieu a donné des outils à l'Église, a donné des moyens à l'Église pour que ce perfectionnement-là soit constant, continu, jusqu'à ce qu'on soit à l'état parfait de Jésus-Christ. Et on s'entend que ça n'arrivera jamais de notre vivant ici. On va être à cette image-là le jour où on va se retrouver en présence de Dieu, le jour où Dieu va revenir sur la terre. C'est à ce moment-là qu'on va avoir atteint cette stature-là parfaite. Puis, il dit, « En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef. » Donc, le fait de se de se proclamer, de professer la vérité dans l'amour est un élément essentiel à la roue de notre perfectionnement ensemble. Pour arriver à ce qu'il dit ici, ben l'élément essentiel, l'ingrédient essentiel, c'est de se professer la vérité dans l'amour. C'est-tu important de comprendre c'est quoi ça, se professer la vérité dans l'amour? Parce que là, les autres choses, là, il y a beaucoup d'idées conceptuelles, il y a beaucoup de principes globales, mais là, ici, on a quelque chose de concret, là. Il nous dit, allez et professez-vous la vérité dans l'amour. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on entend cette phrase-là? La vérité et l'amour est indissociable. Oui, vraiment. La vérité sans amour, ça n'a pas de sens, hein, non plus. Oui, Robert. OK? La vérité, c'est comme une chirurgie, puis l'amour, c'est l'anesthésie. C'est une chirurgie sans... Ouais. Non. Rien de plaisant là-dedans. Oui, Eric. La vérité choque, ouais. Donc, il y a un danger là-dedans, oui, effectivement. Jacqueline? Et? Que Jacqueline dit, je répète pour l'enregistrement, dans nos relations, si on peut dire, dans l'élément de se dire la vérité, l'humilité est essentielle. Parce que si on arrive là avec nos grosses bretelles, puis notre grosse confiance, puis on dit quelque chose à l'autre, puis dans l'orgueil, ben ça marche pas. On se met on prend un rôle, on se met un niveau de d'orgueil, si on peut dire, d'autorité, qui n'a pas lieu d'être. Notre connaissance. La disposition de cœur dans ça. Et l'humilité, l'élément essentiel, quelqu'un d'autre? Un petit peu, j'ai une main levée, là. Pas de problème. Par manque d'amour, combien de fois qu'on a évité de dire toute la vérité? Ouais. L'estime, donc je ne suis pas tout, je restreins. Ouais. De tout dire la vérité à ces personnes-là. Ouais. Oui. Le fait qu'on se restreint de dire la vérité parce qu'on veut pas, on les aime pas suffisamment. On s'aime plus, parce que si on lui dit toute la vérité, on va perdre quelque chose. Fait que il y a cet élément-là aussi dans proclamer la vérité avec amour, OK? Chose, Eric, tu avais quelque chose? C'est vraiment touché, hein? Ouais. T'es qui, toi, pour venir me dire ça? T'es-tu meilleur que moi pour venir? Comment je reçois ce que l'autre dit? Bon. Puis quand... Oui, recevoir avec amour, puis présumer que l'autre est bien intentionné et le fait par amour. Vous savez, quand vous regardez notre alliance relationnelle, OK, je vous encourage à la lire, à la relire, si vous ne l'avez pas, elle est écrite là-bas, en arrière, sur les babillards, puis prenez-la en photo avec votre téléphone, lisez-la, écrivez-la, je peux vous l'envoyer par courriel. Mais un des éléments dans ça, c'est de se laisser reprendre dans l'humilité et dans l'amour. Mais on dit pas reprendre les... Non, c'est de se laisser reprendre. C'est un élément essentiel de la vie chrétienne. Ça fait partie de... Ça fait partie de ce pourquoi c'est important qu'on vive ensemble, qu'on se connaisse, qu'on partage nos vies ensemble. Si un pur inconnu arrive et me dit quelque chose qui me confronte, c'est pas la même chose que quand c'est un ami, quand c'est un frère, une sœur que je côtoie, que je connais, que je sais qu'il m'aime, que mon bien à cœur. C'est sûr et certain que ça leur a pas le même effet. Du tout, du tout, du tout. Il y avait quelqu'un en arrière. Oui. Le problème, c'est l'amour. Oui, le problème est vraiment là au niveau de l'amour. C'est pas le fait qu'on le fait, c'est le fait de comment on le fait. Oui, ça fait toute la différence. La personne le voit dans la disposition de cœur, dans la façon dont ça se sent. Ouais. Non, c'est là ou c'est pas là. L'amour, elle est là ou elle est pas là. Il y a pas. L'amour ne se crée pas, ne se force pas. Elle est là ou elle n'est pas là. Puis la demander à Dieu. Oui. C'est premièrement une disposition de cœur dans notre propre vie qui va faire en sorte que l'amour va être présent ou l'amour ne le sera pas. C'est vraiment une disposition de cœur. Quand on parle de vulnérabilité, là, ben, sans la vulnérabilité dans notre propre vie, il n'y aura pas d'amour. C'est impossible. On peut pas la recevoir de Dieu, on peut pas la recevoir des autres et on ne peut pas la donner. Fait que le problème, le nerf de la guerre est vraiment là. Oui, une dernière intervention, ça, il faut que je continue. La vérité, c'est très factuel. Ouais. L'amour est un état d'être. Ça se commande pas de la même façon, hein. Un état d'être, c'est beaucoup plus profond. Ça vient chercher les états, le cœur, l'essence de ce qui motive chacune de nos actions. Notre état d'être, elle est là, tandis que la vérité, on peut le voir comme étant la chose. Oui. S'il n'y a pas d'amour, parle pas. Ben oui, c'est clair. Ah oui. Puis de bien permettre ton. Et voilà. Oui, parce que. Non. En réalité, ce qu'on constate, c'est que cette phrase-là, se dire la vérité avec amour, c'est devenu un peu un slogan pour dire, ben, j'ai une vérité difficile à te dire, mais il faut que je te la dise. C'est parce que je t'aime. Mais c'est devenu un slogan un peu avec cette idée-là, dire la vérité avec amour, c'est j'ai quelque chose de difficile. Il faut que je te le dise, mais j'ai pas le goût de te le dire parce que si je te le dis, je vais avoir peur de perdre quelque chose que je veux pas perdre. OK? C'est compliqué, hein? Mais il y a une lutte. Il y a vraiment une lutte à l'intérieur de nous avec cette... Elle est biblique, OK? On a à se reprendre, on a à s'exhorter, on a à s'aimer. Mais est-ce que c'est de ça qui est parlé dans le texte? Est-ce que c'est de cette conception-là que Paul, il nous charge ici de se dire, puis dans notre façon de vivre ensemble. Sais-tu le fait de se reprendre comme ça qui va faire en sorte que on va devenir maturité, on va grandir dans l'amour, on va grandir à la stature parfaite de Christ. Sais-tu de se reprendre comme ça, qui sont difficiles à se dire, qui va produire ce fruit-là? C'est quand même important, là. C'est évident qu'ici, il est une question relationnelle. C'est évident ici qu'il est une question de se dire quelque chose qui est vrai. Okay? Mais pour bien comprendre ce que Paul a voulu dire, faut vraiment le prendre dans son contexte. Et il faut aller vérifier un peu avant puis un peu après. Ici, il est en train de parler à l'Église, la structure de l'Église, il est dans une lettre plus générale. Il n'est pas dans une lettre où est-ce qu'il va reprendre les gens avec un élément de doctrine ou ce qu'il va corriger ou ce qu'il va redresser. Donc, faut être prudent avec ça. Et si on continue, ça dit ceci, OK? On a arrêté au verset 16, que, bon, tout est en Christ, c'est lui qui coordonne le corps, bien coordonné, formant une solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Verset 17, voici donc ce que... selon la vanité de leurs pensées, dont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, ici, il y a la notion, comme on a vu hier aussi, que le chrétien marche dans la vie de tous les jours d'une façon différente, parce qu'il n'est plus laissé à lui-même. Maintenant, son maître, qui est Jésus-Christ, l'a instruit. Et il n'agit plus dans l'ignorance. Donc, on n'est plus dans cet état-là. Ayant perdu, se sont livrés à des règlements, à des dérèglements, pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le mot vérité est vraiment important ici. C'est de quoi il s'agit? C'est quoi la vérité dans le texte? La parole de Dieu? Mais quand on regarde, là, verset 21, si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. La vérité, elle est en Jésus-Christ. C'est quoi la vérité qui est question ici? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Tout est en lui. Donc, se dire la vérité avec amour, en réalité, c'est quoi? C'est de se dire Jésus avec amour. C'est de se pointer Jésus avec amour. C'est de se parler de l'Évangile avec amour. Puis, le terme qui est là dans verset 15, c'est professant, professer. Il y a vraiment un élément de déclaration. Le mot grec qui est là, il est utilisé deux fois dans le Nouveau Testament. Une fois là, puis une autre fois dans Galates 4, 16. Quand on le prend dans son contexte de Galates 4, 16, ce mot-là signifie vraiment la prédication. Vraiment l'élément de proclamer, de dire haut et fort pour que tout le monde entende, que tout le monde voit d'une façon claire et précise. Et le terme qui est là, c'est un mot qui, dans son sens large, veut vraiment dire, et là, je vais le vérifier dans mes notes, pour vous donner vraiment la bonne définition, si je trouve où je l'écris. C'est ça, c'est parler ou agir avec vérité. Le mot professer la vérité, c'est parler ou agir avec vérité, c'est un verbe qui est là, qui signifie dans son sens large être véridique. Donc, il y a vraiment l'élément d'être dans la vérité. Et quand on le prend dans Galates 4, 16, il y a vraiment l'élément de proclamer. Donc, il y a une proclamation dans la vérité. Donc, c'est de se proclamer, de dire haut et fort, Jésus-Christ, les uns les autres. De revenir, de se parler de Jésus, de revenir à Jésus. La vérité, c'est pas de se dire quelque chose de difficile que j'ai à te dire. Quelque chose à te dire, c'est pas facile. Et tu ça qui est question. Faut que je te parle de Jésus. Pourquoi faut que je te parle? C'est celui qui sauve. Il y a encore un endroit où il y a encore besoin d'entendre l'Évangile. Il y a encore un endroit dans ton cœur qui a besoin de recevoir l'évangélisation comme étant toutes les étapes jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Une fois qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, que tu es chrétien, que tu es sauvé, maintenant on va t'enseigner la discipline. On leur pointe Jésus et par la suite, on les pointe vers la discipline spirituelle. On va t'enseigner comment prendre soin de ta famille, on va t'enseigner comment prendre soin de tes finances, on va t'enseigner comment vivre tes relations, on va t'enseigner comment être généreux, donner selon le Seigneur. On va t'enseigner toutes ces choses-là pour que tu aies une vie qui reflète la personne de Dieu, qui va mettre ta vie en règle. On lui donne plein de principes. Combien de livres qu'il y a sur « Voici les trois étapes essentielles du mariage. Voici les trois étapes essentielles pour avoir des finances en règle, l'abondance que Dieu nous promet. » Entre parenthèses. Il y en a deux. Il y a des trois qui nous apprennent les choses. Mais toutes ces choses-là nous pointent à plein d'éléments qui sont dans la parole. Dieu, mais qui sont présentés sans Christ. Sans l'essentiel, sans revenir à la base de toute chose. Jésus-Christ, tout est en Jésus. Tout revient à lui, tout est pour lui, tout est par lui, tout revient à Jésus. La seule chose qu'on a à se donner les uns les autres, c'est tout. La discipline spirituelle, ici, le cœur de cette discipline spirituelle-là ne pointe pas vers Jésus. On est en train de se donner quelque chose. De pointer quelque chose d'autre que Jésus, on est en train de pointer vers une idole dans la vie de la personne. On est anti-Christ si on pointe quelque chose d'autre que Christ. Tous les domaines de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, les finances, les relations, élever les enfants, notre propre vie, Jésus-Christ. Christ n'est pas un de notre vie au cœur de toutes nos stratégies, nos moyens, on est anti-Christ. On passe à s'instruire l'amour de Dieu. On peut faire de la parole de Dieu un idole qui nous éloigne de Jésus. Les pharisiens l'ont fait. Qu'est-ce que Jésus a dit aux pharisiens? Gang d'hypocrites. Vous étudiez les Écritures. Vous aimez les Écritures. Mais vous passez à côté de moi. Je suis là, les Écritures parlent de moi, puis vous ne venez pas à moi. Et il les a repris sévèrement. Là en pratique, à mettre sa vie en règle et en ordre et à avoir une vie qui est enviée par les autres. Mais si on le fait, c'est de la folie. L'élément que l'Église grandissent en maturité, tous et chacun ensemble, on a à se dire Jésus-Christ. Et c'est sans le dissocier de l'amour aussi, comme on dit, qui est tellement important. Comment s'apporter une solution d'une façon sincère et vraie si on n'est pas en amour avec la solution qu'on veut présenter. Qui ici a déjà essayé de convaincre quelqu'un de quelque chose que lui-même n'était pas pleinement convaincu? Pas souvent efficace. Si le vendeur n'est pas convaincu que son produit est bon pour la personne, il ne sera pas aussi convaincu que quelqu'un qui l'est vraiment. Et c'est la même chose. Comment se présenter Jésus-Christ si on n'est pas nous-mêmes en amour avec Jésus-Christ? On réussira jamais de se pointer Jésus-Christ avec amour si on n'est pas nous-mêmes avec la personne de Jésus. On peut s'enseigner plein de disciplines spirituelles pour marcher d'une vie différente comme il nous est parlé dans Éphésiens, comme on a vu dans 1 Pierre. Il y a plein de principes qu'on peut s'enseigner puis essayer d'aller les appliquer par nous-mêmes, par nos propres forces, puis de se dire, par amour pour toi, je vais te dire la vérité. C'est essentiel à tout le monde qui veut réellement accomplir. On peut se surveiller comme ça, mais on passe à côté de l'essentiel. On essaie d'accomplir la mission, on essaie d'accomplir l'œuvre de Dieu sans la présence de Dieu. Jésus a envoyé ses disciples en mission, mais il leur a dit qu'il n'était pas tout seul. Dans l'Évangile de Jean, verset 14, chapitre 14, chapitre 15, de quoi Jésus nous parle? Il nous parle de l'Esprit. Il nous parle de sa présence quand lui sera plus là, d'une façon charnelle, dans le monde. Et il rassure ses disciples que oui, il faut que je m'en aille. C'est mieux que je m'en aille. Parce qu'après ça, je vais être en mesure d'être avec chacun de vous. À tout moment, par la présence de l'Esprit. Donc, si on se pointe quelque chose d'autre que Jésus-Christ, on est en train d'essayer d'appliquer les principes des Écritures, on est en train d'essayer de grandir en maturité sans la puissance pour y arriver. C'est de la pure folie. On regarde nos finances. De quelle façon Jésus-Christ? De quelle façon Jésus-Christ a une influence dans mon mariage? De quelle façon j'ai transformé mes relations humaines? Il faut qu'on se pose la question. Et on se donne tellement souvent autre chose que Jésus-Christ. Un exemple parmi tant d'autres. Tu sais, dans les Écritures, c'est évident. Il y a un des sujets qui est très, très, très peu populaire auprès des gens aujourd'hui, c'est la sexualité dans le cadre du mariage. Et c'est toujours une question avec les adolescents de dire, ben le Seigneur, il demande d'attendre d'être marié avant d'avoir un nom des relations sexuelles. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est comme ça, parce que c'est ce que Dieu demande. Ça, c'est une bonne réponse. J'aime ça, Eric. Tes ados doivent aimer ça, tes réponses. Mais, tu sais, ça nous met tout un peu mal à l'aise, là. Mais, tu sais, vous avez tous, pour la plupart, vous avez eu des enfants, vous êtes passés par là. Souvent, quand nous autres, on était ados, une des réponses qu'on nous disait, parce que si vous attendez, là, quand vous allez être mariés, ça va être bien meilleur. Vous allez voir. Ça va être bien mieux de même, parce que là, vous allez le faire dans le cadre que Jésus l'a prévu, et puis ça va être bien meilleur. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le seul moyen que ça soit meilleur, c'est de le faire plus souvent. Si on devient bon en le faisant. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est quoi ce mensonge-là qu'on dit aux jeunes? Mais là, on est en train de pointer quoi, là? Ça en est un domaine de vie, là. On est en train de pointer quoi? Autre chose que Christ, là. Écoute, si t'attends au mariage, ça va être bien meilleur, parce que tu vas le faire dans le cadre que Dieu a dit que ça allait être... C'est pour ça, donc, c'est meilleur, c'est mieux. Ah ouais? T'es en train de me dire que ma satisfaction va être encore plus grande si j'attends? Ah ouais? je vais avoir une plus grande satisfaction dans le cadre que Jésus, que Dieu le demande. C'est vers quoi qu'on pointe, là? Ma satisfaction. Hein? Je vais être plus heureux, je vais être plus satisfait si je vis ma vie dans le cadre que Dieu la donne. Aïe aïe! Mais je pointe tout vers moi, là. La satisfaction personnelle, c'est la cause numéro un de l'immoralité sexuelle dans la vie de tous les gens, de tous les êtres humains, la satisfaction personnelle. Et là, on est en train d'essayer d'encourager un jeune à suivre le Seigneur en renforçant sa satisfaction personnelle qui est à la racine de tous les problèmes puis de son orgueil puis de son péché. Hey! On est en train de pointer complètement quelque chose de différent là, que Jésus-Christ là-dedans. Là. Et c'est grave. La vraie raison pour laquelle il faut attendre, c'est parce que Jésus est venu et Jésus a attendu. Jésus a pris soin de son épouse. Jésus a racheté son épouse. Jésus veut purifier et garder pure son épouse. Il n'y en a pas d'autre raison. La façon dont on va vivre notre sexualité va refléter l'histoire de Dieu d'une façon concrète dans le monde. Fait que si tu vis pour Jésus-Christ, si tu vis pour Dieu, tous les éléments de ta vie vont refléter l'histoire de Dieu. Donc, la raison pour laquelle tu attends au mariage, c'est parce que Jésus-Christ attend son épouse. Il nous a fiancés. Nous sommes son épouse. Il a payé cher pour nous avoir. Et Jésus-Christ attend encore aujourd'hui de consommer ce mariage-là. Il attend. Il est dans l'attente. Mais un jour, il revient. Et il va consommer le mariage. Aux noces de l'agneau. On va vivre cette relation-là intime dans la présence de Dieu. Et ça va être un moment d'intimité. Il n'y aura pas d'égal à ça. Au moment-là où est-ce qu'on va rentrer dans la présence de Dieu, où est-ce qu'il va y avoir la célébration des noces. Et c'est exactement la raison pour laquelle notre vie est appelée à refléter l'histoire de Dieu. Là, on se pointe Jésus-Christ. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ pour faire en sorte que chacun des éléments est soumis à Jésus-Christ et qu'au lieu de chercher ta satisfaction personnelle, tu cherches à ce que ta vie raconte l'histoire de Dieu? Et si les gens te demandent « Pourquoi t'attends jusqu'au mariage? » À cause de Jésus-Christ. T'es bien bizarre. T'es bizarre en temps. Tu viens pas de notre planète. Effectivement, j'appartiens pas à ce monde. Et si ma vie ne raconte pas une histoire différente que celle du monde, ben mon Dieu n'est pas Jésus-Christ. Mon Dieu n'est pas Jésus-Christ. Si ma vie ne raconte pas une histoire différente, si ma vie ne témoigne pas d'une histoire différente qui vient d'une autre planète que celle sous laquelle je marche concrètement, physiquement, ben mon Dieu n'est pas Dieu, n'est pas Jésus-Christ. Mon Dieu est un autre Dieu. C'est pas plus compliqué. C'est vrai dans notre sexualité, c'est vrai dans notre mariage, c'est vrai dans nos finances, c'est vrai dans la façon dont on élève nos enfants, c'est vrai dans tout. Comment s'apporter Jésus-Christ dans toutes les sphères de notre vie et rien d'autre? Parce qu'on se pointe tellement autre chose. Et si on se pointe autre chose, on n'arrivera jamais à vivre ce que dont Paul nous parle dans Éphésiens, cette église-là qui est mature, qui ne se laisse pas porter d'un côté puis de l'autre, qui ne se laisse pas ébranler par toutes sortes de mensonges. On ne deviendra pas cette église-là, si on se pointe autre chose que Jésus-Christ, on n'en a pas d'autre moyen. C'est le seul. Se dire la vérité avec amour, c'est premièrement être en amour avec Jésus-Christ et de se le proclamer les uns les autres. Et une façon bien simple de le faire, Maurice, si tu peux peser sur le piton, s'il te plaît. On va regarder l'autre slide. Puis elle repèse une autre fois. Ça marche-tu? Si tu repèses une autre fois? Ouais. Ou voir les questions qui vont apparaître en dessous, en théorie. Ça devrait. Ils sont supposés être là. Mais c'est pas grave. S'ils apparaissent pas, c'est pas grave. Mais Un des moyens simples qu'on a, c'est de vivre ensemble, c'est quelque chose qu'on veut renforcer encore davantage, c'est de toujours avoir notre vie, notre histoire en perspective de l'histoire de Dieu, pour constamment se rappeler la vérité, pour constamment se rappeler où est-ce que dans ma vie j'ai besoin de l'Évangile encore. On reconnaît un arbre à ses fruits. Nos fruits, c'est nos actions, c'est ce qui émane de notre vie, de notre disposition, de notre état d'être. Et si on veut comprendre les fruits dans un arbre, il faut regarder aux racines. Et la racine, c'est notre cœur, c'est notre foi, c'est la vérité de ce que l'on croit par rapport à nous et par rapport à Dieu. Et il y a toujours ici ces éléments-là. Ce que nous faisons, c'est nos fruits. Qu'est-ce que nous faisons découle de notre racine. Notre racine, c'est ce que nous sommes, ce que nous croyons être vrai par rapport à nous-mêmes. Et quand on part d'ici, ce que nous faisons, ça nous aide à comprendre les vérités que l'on croit par rapport à nous, à notre cœur. OK? Si on se pointe autre chose que Jésus-Christ, si dans notre vie on pointe autre chose que Jésus-Christ dans notre façon de faire, c'est qu'il y a quelque chose ici qu'on n'a pas cru dans nos cœurs par rapport à l'Évangile, par rapport à la vérité de Dieu. S'il y a un mensonge ici, ça va avoir un impact là. Fait que si on part de nos fruits, on remonte, qu'est-ce que ça dit sur mon cœur? Sur la vérité de ce que je crois être vrai me concernant. Et on peut remonter par la suite. Si ça c'est vrai par rapport à moi, c'est ce que je crois, ça veut dire qu'est-ce que ça révèle de ce que je crois que Dieu a fait pour moi? Et qu'est-ce que ça révèle de ce que je crois réellement sur la personne de Dieu, qui il est? Parce que la vérité, c'est que tout découle de qui Dieu est. La personne de Dieu définit ce que Dieu a fait. Ce que Dieu est, il l'a exprimé en fonction de ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait a défini qui je suis. Et ce que je suis définit ce que je fais. Et si on part à l'inverse, ce que je fais démontre ce que je crois être vrai sur moi, ce que je crois réellement de ce que Dieu a fait, donc ce que je crois réellement de ce que Dieu est. C'est pas la première fois qu'on vous parle de ça, mais c'est une façon concrète et facile de se pointer constamment Jésus-Christ, de révéler les mensonges dans nos vies et de se rappeler l'Évangile, de rappeler qu'est-ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, qui il est? Si je vis de l'anxiété, qu'est-ce que ça révèle sur moi? Je suis anxieux, le fruit est là. Qu'est-ce que ça révèle de ce que je crois sur moi? Ça révèle un problème. Mais c'est quoi que ça révèle? Le fait que, mettons exemple, on prend par exemple l'anxiété, c'est quoi que ça révèle sur ma personne? Ben, je crois que je suis tout seul. Je crois que je suis au contrôle. Ça dépend de moi. Donc, qu'est-ce que je crois de ce que Dieu a fait? Dieu m'a abandonné. Dieu est supposé être là, mais Dieu n'est pas là. Donc, qu'est-ce que je crois de la personne de Dieu? Dieu ne m'aime pas. Dieu n'est pas amour. Parce qu'il n'est pas présent. Il m'a abandonné. Je suis laissé à moi-même. Donc, je suis tout seul. Je ne suis pas important. Je ne suis pas aimé. Je ne suis pas chéri. Donc, le fruit de tout ça, mais on le sait que ce n'est pas vrai. Et c'est là qu'on a à se proclamer Jésus-Christ avec amour. Dis, regarde, qui Dieu est. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Regarde maintenant qui tu es. Qu'est-ce que ça a comme impact sur ton anxiété, sur comment est-ce que tu te sens? Et de prendre ce qui nous est révélé et de l'amener à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va régler notre problème. Et si on n'est pas en train de se pointer ça ensemble, on est en train de se pointer autre chose que Jésus-Christ, autre chose que la vérité de l'Évangile. Et c'est grave. C'est très grave. C'est important. Et c'est ce qu'on veut faire ensemble. C'est ce qu'on veut faire ici. On veut se pointer constamment et seulement Jésus-Christ. Personne d'autre. Tout élément de discipline de vie spirituelle est vain si Jésus-Christ n'est pas au cœur de ça, et que nos cœurs ne soient pas confrontés constamment avec amour à cette vérité-là de Jésus-Christ et de son œuvre, et de qui il est et de qu'est-ce qu'il fait maintenant de moi. Et ça se reflète sur tous les aspects de notre vie. Nos finances peuvent révéler des choses dans nos cœurs, la façon dont on vit nos relations, la façon dont on élève nos enfants, la façon dont on vit chaque aspect de notre vie révèle la vérité et on peut y apporter l'Évangile et soumettre complètement notre vie, toutes nos décisions, tout élément. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, on n'a aucune raison d'avoir peur de se présenter devant Jésus et de se rendre complètement vulnérable. De s'exposer nos cœurs tels qu'ils sont devant Jésus-Christ, même devant les uns les autres, parce qu'on est tous dans le même bateau et on se pointe tous Jésus-Christ. Et si on se pointe tous Jésus-Christ, c'est pas grave si les autres voient mon cœur. C'est pas grave. Je vois le leur aussi, puis je peux leur apporter l'Évangile parce que j'en ai autant besoin. Et ils le font dans ma vie, avec amour. C'est merveilleux. Et c'est ça à quoi on est appelé. Et si on ne le fait pas, ben, on va vivre dans une fausse maturité. Une maturité qui va nous amener dans la vie. Avant de prendre le repas du Seigneur, on se rappelle Jésus. Hein? C'est ça qu'on fait ensemble ce matin. On se rappelle l'essentiel. On s'appelle Jésus-Christ. De quelle façon Jésus-Christ a fait la différence dans votre quotidien? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit ce matin? Y a-t-il quelque chose qui vous a marqué, qui vous a touché, qui vous amène à réfléchir? Avez-vous des exemples dans votre vie de comment est-ce que l'Évangile a fait la différence? Comment est-ce qu'un frère, une sœur ou simplement quelqu'un vous a apporté Jésus-Christ et non une réprimande et non un reproche? Oui, il le fait avec amour, il a eu de la difficulté à le faire, c'est cool, mais est-ce qu'ils m'ont pointé Jésus-Christ? Est-ce que vous avez des expériences ou est-ce que oui, il vous a pointé Jésus-Christ? Est-ce que vous en avez ou est-ce que non, il ne vous a pas pointé Jésus-Christ? C'est quoi le fruit? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de prendre le repas du Seigneur, j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble, quelques minutes. J'ai encore beaucoup parlé, le temps est avancé, mais la parole est à vous. Oui?
J'ai passé 10 ans de ma vie à clopiner, à boiter. Jusqu'à temps qu'un frère me dise Yves, le Seigneur t'a tellement aimé qu'avant la fondation du monde, il t'avait choisi, il t'avait pardonné tes péchés passés, présents et futurs. C'est un frère qui ne m'a pas jugé. Un frère qui m'a pointé à Jésus-Christ. Et puis, maintenant, quand tu me parles, j'écoute tout à l'heure, puis je pense toujours inversé. Ayez le sentiment qui est en Jésus-Christ. Puis, renonce à lui-même, le Seigneur nous demande de ne pas regarder à soi-même, mais de dire, ma vie t'appartient, mes droits t'appartiennent. Et ma vie a changé et par un frère qui m'a présenté, qui m'a réaligné sur la personne de Jésus-Christ, a transformé ma vie. Je ne vous conterai pas toute mon histoire, mais c'est quelque chose. Un jour.
Bientôt.
Bon, c'est un bel exemple qui va bien avec ce que tu as dit. Cette semaine, un de mes fils s'est fait opérer. Danny a eu une prothèse de hanche. Et cette semaine, j'ai vécu de l'anxiété la journée de l'opération. Et je me suis aperçue que je portais sur mes épaules cette anxiété-là, cette... de converser avec Dieu et de lui amener ce que mon cœur vivait à ce moment-là. Et de me rappeler, justement, la souveraineté de Dieu et que la seule façon pour moi de pouvoir faire face à cette situation, c'était vraiment de tout remettre à Dieu. Et j'ai pris j'ai un petit livre qui a les promesses de Dieu. Et j'ai feuilleté ce livre-là, j'étais allée m'en chercher. Puis ça m'a fait du bien. Que votre cœur ne se trouble point. Et j'ai pu partager avec Dany aussi de demander, de prier avec son épouse et de vraiment s'en remettre à Dieu pour cette situation-là et de lui faire confiance et de pouvoir tourner les yeux vers lui. Et j'ai réclamé la paix de Dieu dans mon cœur et je l'ai vraiment senti. Et ça m'a fait du bien.
Quelqu'un d'autre.
Il est important de tirer peur. Les maladies sont très rares. Et la mère avait dit lui, sauf que moi, elle n'a pas dégénéré. Et lui, elle a dégénéré au point qu'il est en dialyse, quoi pas partir. Si la dialyse, arrêterait la mère, il est mauvais. C'est heureusement, quand il s'avère, Seigneur, alors il est bien pour l'instant. Parce que lui, il voit l'avenir, puis il va avoir une crête de rein, ça va bien aller. Ça fait. Ben, c'est sûr que je suis.
On va prendre le temps de prier ensemble pour Michael, pour notre sœur aussi, que le Seigneur qu'il la bénisse de sa paix. Le Seigneur lui rappelle qui il est, qui est présent, qui a toutes choses entre ses mains. On peut s'en remettre à lui avec confiance. On prend le temps de prier ensemble. Oui, Seigneur Jésus, on veut aller ensemble devant toi. On veut, Seigneur, t'apporter notre sœur, Père éternel, qui souffre dans son cœur, qui est triste de voir son garçon dans cet état. Je te prie, Seigneur Jésus, on veut t'apporter devant toi, Seigneur Jésus, avec amour, et que, Père éternel, tu viennes rassurer son cœur. Seigneur Jésus, que tu viennes l'entourer de tes bras d'amour, tu la rassures de ta présence, tu lui donnes ta paix. Que sois en mesure, Seigneur Jésus, de tout te remettre, de tout te donner, Seigneur Jésus. Viens rassurer son cœur. Viens, Père éternel, mettre en lumière, Seigneur Jésus, la vérité, ta vérité, ton amour, ta présence, ta compassion pour elle et pour son fils. Qu'elle s'en remette avec confiance à toi, Père, et qu'elle retrouve ta joie, ta paix, malgré les circonstances, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus, pour son fils, que tu puisses mettre ta main, Seigneur Jésus, sur toutes les procédures de greffe, que tu puisses, Père éternel, intervenir d'une façon puissante. Merci de ce que tu mets la paix, la joie dans son cœur. Et Père éternel, ce frère continue de proclamer ta parole, proclamer ton amour, Père éternel, autour de lui. Touche les gens, Seigneur Dieu, que tu mets sur sa route. À travers ce moment difficile, à travers, Seigneur Jésus, cette épreuve. Père éternel, on veut te demander la guérison de ce frère, Père éternel. En ton nom, je te demande d'agir puissamment. Que ton intervention, Seigneur Dieu, soit manifeste pour tous les hommes. Que la gloire, Père éternel, te revienne entièrement dans cette situation. Autant par l'attitude des gens qui l'entourent, Seigneur Jésus, que par sa guérison, Père éternel. Le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'on te prie, qu'on te demande ces choses avec foi. On sait que tu es présent, que tu es parmi nous, Seigneur Jésus, que tu nous entends. Et on s'attend, Seigneur Jésus, de voir ta main puissante agir dans le cœur de notre sœur et de notre frère, Père éternel. Le précieux nom de ton Fils. J'inviterai les préposés à s'avancer. On puisse distribuer le pain et la coupe. Et se rappeler que nous sommes l'épouse de Christ, que Jésus-Christ nous a rachetés, que notre vie ne nous appartient plus, elle appartient maintenant à Jésus-Christ, et que on peut lui donner avec confiance, entièrement. On a un Dieu d'amour et de paix. Voudrais-tu nous conduire dans la prière, s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup pour ce temps qu'on a eu ensemble ce matin. Apportons-nous les uns les autres Jésus-Christ et rien d'autre. On en a tellement de besoin. Bonne semaine.